Fanny Burney, Camilla ou la peinture de la jeunesse. Tome 5. Livre 9. Chapitre 1er. Voyage sur l'eau. L'habit de bal de Camilla n'était point achevé lorsqu'elle partit pour la fête. Melmont fut forcé de faire comme les autres. Sa sœur lui représenta si pathétiquement combien il serait ridicule de s'absenter de la société lorsqu'il ne pouvait douter qu'Eugénia n'en fît partie, et combien il serait difficile d'éviter longtemps la rencontre d'Indiana, qu'il consentit à courir les risques de deux entrevues qu'il redoutait également. Il ne tarda pas à faire cette double rencontre, d'autant plus désagréable pour lui qu'en apercevant les deux objets l'un près de l'autre, il ne put s'empêcher d'en faire douloureusement la comparaison. Miss Margland, Indiana, Eugénia et le docteur Orborn venaient d'arriver dans le carrosse de Sir Hugh. Et la matinée étant très belle, ils étaient descendus de voiture pour joindre le reste de la compagnie qui se disposait à passer sur les navires. Miss Margland continuait à solliciter la main du docteur pour le moment de l'embarquement, mais il s'avançait si lentement et de si mauvaise grâce qu'il était impossible de ne pas apercevoir sa répugnance. Clairement, son écuyer en titre, et qu'elle aurait préféré sans doute, était inabordable. Il avait joint le jeune Adler et ses compagnons, qui lui donnaient leurs instructions sur les chenilles et les écuries, tandis qu'il leur débitait en revanche d'excellents prétextes sur l'art de la cuisine. Melmont, violemment embarrassé de sa contenance, supplia sa sœur de rester jusqu'au dernier moment dans sa voiture. Elle y fut bientôt environnée par tous les hommes de la société. Parmi les plus empressés étaient les deux Westwind, enchantés de voir Camilla reparaître, et le plus favorablement reçu fut le Lord Valhurst. Camilla crut qu'il valait mieux converser avec lui que de s'exposer encore aux assiduités du jeune Henry. Mais son esprit prenait peu de part à ce qui se passait autour d'elle. Edgar se promenait sur le rivage, et c'était là qu'elle fixait ses pensées et ses regards. Depuis quelque temps, Edgar éprouvait la douleur de renoncer à l'objet de son choix et quelle conduite il devait tenir avec les parents de Camilla. Lorsqu'il fut informé du dangereux passe-temps que Mistress Burlington avait nouvellement adopté pour bannir l'ennui de ses soirées, sa première idée fut d'en faire part à M. Tyrold. Mais il aurait voulu savoir, avant de lui parler, si Camilla l'avait instruit de sa démarche. Il sentait trop vivement l'impression qu'une semblable nouvelle ferait à son tuteur pour ne pas désirer de l'adoucir autant qu'il serait possible. Tandis qu'il flottait ainsi dans une triste incertitude, son domestique apprit de Molly Mill le succès de Melmont à Clèves comme prétendante à la main d'Eugénia. Cette alliance avec le frère le fit renoncer aux observations qu'il s'était proposé de faire sur sa sœur. Résolu de s'adresser particulièrement à Camilla, il n'attendait plus qu'une occasion de lui parler sans témoin pour hasarder quelques conseils et prendre un congé définitif. Il ne pouvait toutefois s'accoutumer à voir sans chagrin Henri lui faire sa cour. Les prétentions du lord ne l'alarmaient guère, mais le bourdonnement d'une troupe d'adorateurs lui paraissait insupportable. Le jeune Lord Perville arriva dans un superbe équipage avec sa mère, nouvellement veuve, et quelques parents de sa famille. Mistress Burlington ne put pas se défendre de suivre la foule qui se pressait autour des arrivants, et toutes les petites sociétés furent bientôt réunies. Edgar, après avoir complimenté les amphitryons, s'approcha gravement de Camilla. Il lui demanda des nouvelles de sa santé et se plaça près d'elle dans le dessein de saisir, pour lui parler, le moment où toute la troupe se mettrait en marche. L'approche d'Edgar rendit à Camilla l'espoir et le courage. Il ne lui resta d'autre déplaisir que d'entendre Henri se lamenter de sa longue absence et de lire dans ses regards la douloureuse impression que lui faisait son air d'indifférence. Un fort beau yacht et trois vastes gondoles attendaient la compagnie. Le Lord Perville passa le premier avec sa famille dans un bateau qui les conduisit au yacht. Après lui, toutes les personnes formellement invitées, au nombre desquelles étaient Mistress Burlington et les arrivants de Clèves. Camilla, comptant sur le secours d'Edgar pour monter sur le yacht, évita le pauvre Henri d'une manière si marquée qu'il perdit toute espèce d'espoir. Il se disposait même à s'éloigner d'une personne qui paraissait fatiguée de sa persévérance, lorsque son père, le retenant, lui dit à l'oreille « Courage, l'ami, tiens bon !» Elle y viendra. » Edgar était toujours auprès d'elle et se proposait, selon ses désirs, de lui donner la main lorsque son tour viendrait d'entrer dans le bateau. Mais leur attente fut déconcertée par le lord qui, sans attendre son tour, présenta la main à Camilla dès que Lady Perville fut passée. Camilla, non moins mécontente que ses deux soupirants, le suivit, ne sachant comment s'en défendre. Le lord, toutefois, ne jouit pas longtemps de sa victoire. L'agitation du bateau le réduisit à désirer pour lui-même le secours qu'il avait prétendu donner à sa compagne. En montant sur le bord du bateau pour passer dans le yacht, il chancela, son pied glissa. Il serait infailliblement tombé entre les deux bâtiments sans un marinier qui le saisit et le mit sur le yacht. Il n'eut d'autre accident qu'une meurtrissure à la jambe, de l'eau dans ses souliers et ses bas, et le changement de maintien que produisit un mélange de terreur et de honte. Edgar, qui, sans compter sur cet accident, le jugeait assez probable, s'élança dans le bateau pour empêcher Camilla d'être entraînée dans la chute du lord. Mais il se sentit retenu fortement et vit Henri qui s'était élancé au même instant et qui, n'ayant point éprouvé d'obstacle, le prévint et passa Camilla sur le yacht. Edgar, s'étant retourné pour considérer comment ou par qui il avait été arrêté, aperçut M. Westwind, le père de Henri, qui, d'un air mystérieux, semblait, en le tirant encore par son habit, l'inviter au silence. « Quel est, monsieur, lui dit Edgar avec humeur, le but de cette plaisanterie ?» M. Westwind, toujours dans la même posture, et s'approchant pour lui parler à l'oreille, lui dit « Mon fils vous aura la plus grande obligation. C'est un excellent garçon que mon fils, vous pouvez m'en croire. Laissez-le secourir seul cette jeune demoiselle. » La colère d'Edgar ne tint point contre cette naïveté, mais il ne put se défendre de soupirer en voyant que le jeune Henri conservait encore des espérances. N'ayant point de femme à conduire, il lui fallut attendre pour monter sur le yacht qu'elles fussent toutes passées, et le bon M. Westwind, retenu par la même raison, s'empressa de lui faire l'histoire de la situation de son fils avec Camilla. Il lui déclara qu'elle lui semblait la plus charmante fille qu'il eût jamais vue, à cela près qu'elle n'était pas encore bien d'accord avec elle-même. Car elle avait, disait-il, paru si satisfaite de son fils dès la première vue, qu'il avait réellement cru qu'elle lui saurait gré de la demander en mariage. Elle l'avait prise en affection. « Vous pouvez, me disait-elle, vous devez même tirer vanité d'avoir un tel fils. Jamais cette phrase ne sortira de ma mémoire, car, quoiqu'avant je n'aimasse pas moins mon mal, je ne savais pas trop si ce n'était pas uniquement parce qu'il était mon fils. Mais l'éloge qu'elle m'en a fait me prouvait que j'avais raison de l'aimer puisqu'il lui plaisait. Tout d'un coup, sans rime ni raison, il prend à cette jeune fille la fantaisie de ne plus écouter personne que ce vieux lord. Et mon pauvre Hal, après s'être flatté qu'elle était si favorablement prévenue pour lui, se voit dédaignée par elle au point qu'elle n'a plus l'air de l'entendre. Elle court après son vieux lord, qui l'a noyé si mon fils ne l'avait pas secouru. Et je n'oublierai point la complaisance que vous avez eue de le laisser faire. Mais ce n'est pas tout. Elle ne veut pas non plus m'écouter, quoique je n'ai autre chose à lui demander que les motifs de sa conduite. Et c'est ce que je ferai très certainement si je puis la tenir 5 minutes éloignée de ce lord. Car vous ne pouvez pas vous imaginer comme nous étions bons amis avant qu'elle eût son lord en tête. Elle, mon Hal et moi, nous causions presque toujours ensemble et nous ne parlions presque jamais à d'autres. Mon pauvre Hal se croyait sûr de son fait et je ne saurais nier que j'en jugeais de même. Au reste, si nous n'en venons pas à bout, ce ne sera pas notre faute, car elle me plaît presque autant qu'à Hal. Je leur aurais abandonné sur le champ moitié de mon revenu. » Jamais Edgar n'avait été si mécontent de Camilla qu'il le fut après cette relation ingénue. Il ne pouvait pas concevoir comment elle avait pu prendre plaisir à troubler la tranquillité de deux hommes estimables. Le désir de faire une conquête nouvelle ou de tourmenter son amant annonçait une coquetterie impardonnable. Et lorsqu'il réfléchissait qu'il se trouvait dans la même incertitude qu'un jeune homme qu'elle connaissait depuis peu de jours, il se sentait à la fois honteux et blessé d'une humiliante rivalité qui, d'ailleurs, rendait ses regrets beaucoup moins amers. Dans ses entrefaites, Melmont, sollicité par sa sœur et sentant lui-même ce qu'exigeait la décence, prit sur lui d'aller rejoindre la compagnie de Clèves. après avoir salué poliment Miss Marland, qu'il honora d'un sourire, avoir fait une profonde révérence à Miss Indiana, qui ne daigna pas répondre, même par une simple inclination, il offrit son bras à Eugénia. Mais il avait l'esprit si troublé, sa marche était si peu assurée, qu'il ne pouvait pas lui donner grand secours, quoiqu'elle en eût besoin, et qu'à chaque pas, son incommodité la menaça d'une chute. Elle se félicitait cependant parce que, jugeant de lui par elle-même, elle attribuait sa faiblesse à la sensibilité de son cœur, et cette erreur lui faisait non seulement considérer le danger avec indifférence, mais il devenait une jouissance pour elle. Indiana se consolait en méditant une petite vengeance qui lui paraissait nécessaire pour laver l'affront d'avoir été supplantée par sa cousine. Elle refusa tous les bras qui lui furent offerts et marcha seule jusqu'au moment où, en traversant le bateau, elle accompagna chaque pas d'un cri d'effroi, moyen dont elle avait éprouvé la puissance dans une autre occasion. Le son de cette voix retentit dans le cœur du tendre Melmont. Il tourna la tête involontairement et vit Indiana brillante de tous ses charmes. Il n'osa pas la regarder et continua de conduire celle qu'il ne craignait pas moins de contempler. Cependant, n'ayant pu se défendre de jeter un second regard sur Indiana, il crut la voir seule et sans secours dans un pressant danger. Eugénia était en sûreté, quoiqu'elle ne fût point encore placée. Il courut au bateau et tendit à Indiana une main tremblante en la suppliant d'accepter son secours. Ce fut alors qu'à son tour, elle se crut triomphante. Elle le regarda d'un air de dédain et lui déclara qu'elle voulait marcher seule. Et lorsqu'il la conjura de ne point risquer une vie si précieuse, « Je sais, répondit-elle, que ma vie vous est fort indifférente, et je vous invite à retourner auprès de votre Miss Eugénia Tyrold. » Le jeune Melmont avait trop de sensibilité, d'esprit et d'éducation pour n'être pas offensé d'une pareille réponse, si tout autre qu'Indiana l'eût faite. Mais l'amour ne voit rien de ce qui peut déplaire dans l'objet préféré. Soutenu par son dépit, Indiana parvint à sauter sans aide sur le yacht. En toute autre circonstance, elle aurait très certainement passé la journée dans le bateau plutôt que d'en courir les risques. Melmont, ne pouvant lui supposer que des motifs aimables, considéra son dépit comme l'effet de la jalousie et sa jalousie comme une preuve d'amour. Le soupçon d'une basse envie ne se présenta pas à son imagination. Cette idée, qui, dans d'autres circonstances, aurait fait son bonheur, ne servit qu'à rendre sa situation plus déchirante. Le désir et le devoir combattaient si violemment dans son cœur que, ne pouvant plus supporter la vue des deux objets qui leur prêtaient des armes, il s'en éloigna précipitamment. Miss Marland n'avait pas crié moins fort qu'Indiana, mais personne n'avait eu l'air de l'entendre. Le docteur Orborne, le seul écuyer dont elle pouvait exiger le service, ne paraissait pas. Ses yeux le cherchaient et sa voix l'appelait en vain. Elle n'attendait pas de lui beaucoup de courtoisie, mais c'était toujours un homme. Et quelle honte de n'en avoir pas un seul dans sa compagnie. D'ailleurs, le plaisir de le quereller n'était pas indifférent à la gouvernante. Les caractères irascibles aiment souvent mieux avoir des reproches à faire que des remerciements. Lorsque toutes les dames furent placées commodément, on donna le signal du départ. Mais une voix criant « Hola !» attira tous les regards. On vit accourir Lynmer qui cherchait à monter sur le yacht. Toutes les personnes qu'on s'était proposé d'y placer étaient à bord et le Lord Perville invita Lynmer à passer dans une gondole. Mais il répondit qu'il en sortait et qu'il préférait de monter sur le yacht. Le Lord Perville fit quelques excuses aux dames de ce qu'elles seraient peut-être un peu moins à l'aise et Lynmer monta sur le pont. Edgar s'y était déjà glissé. Et M. Westwind, lorsqu'on lui proposa de se placer dans une gondole, répondit qu'il ne se séparait jamais de son fils. Clermont, apercevant un groupe de jeunes gens, força le passage, et s'adressant au jeune Halder, « Savez-vous, lui dit-il, ce que nous avons ici de bon à manger ?»«
Non. »«
Comment diable, reprit-il, est-ce que vous n'avez pas encore visité l'office ?» J'ai déjà fait la ronde dans les trois gondoles sans pouvoir y découvrir la moindre chose et je viens ici dans l'espoir d'y trouver la cuisine mieux fondée. » Halder jura que s'il n'y avait rien à manger, il gagnerait la terre à la nage plutôt que de se laisser affamer. « Mais, dit M. Westwind, j'ai vu de mes yeux porter des provisions dans toutes les gondoles. » Oui, répondit Clermont, des jambons et des volailles. Des volailles et des jambons, et que voulez-vous donc qu'on vous donne? Tout, excepté ces antiques. Du fromage de Stilton, par exemple, reprit Monsieur Westwin. Clermont, piqué du sarcasme et n'osant pas lui répondre, s'éloigna promptement de son voisinage. Alors Monsieur Westwin, prenant sous le bras le jeune Edgar, lui dit « Le jeune homme que vous avez vu passer est un impudent, quoiqu'il soit le neveu et l'héritier du plus digne homme des trois royaumes. Mais je me flatte que son oncle le déshéritera, car il est aussi bête que mauvais sujet. J'aime, comme vous voyez, à dire librement ma pensée. » Enchantée de la scène délicieuse qui se présentait de tous côtés à ses regards, Camilla se serait livrée tout entière à la contemplation des beautés de la nature, sans les efforts continuels que Henri faisait pour attirer son attention. La crainte d'une explication, jointe au désir sincère et généreux de lui sauver l'humiliation d'un refus, lui fit chercher les moyens de lui ravir toute espérance. Mais ce projet était difficile entre Eugénia, qui méditait silencieusement sur sa félicité personnelle, et Mistress Burlington, qui s'occupait à contempler la beauté si fatale au repos de son frère. Après une promenade d'environ 2 heures, le Lord Perville, craignant de rentrer trop tard pour les arrangements de la soirée, ordonna de virer de bord. Il pria les dames de descendre dans la chambre et d'y rester jusqu'à ce que l'évolution fût terminée. Camilla s'empressa des premières pour considérer un spectacle qu'elle n'avait jamais vu. Mais comme les dames remontaient sur le pont, le Lord Valers, qui ne faisait que de descendre, la supplia de s'arrêter un moment. N'ayant pas le moindre soupçon de son motif, elle ne sut comment s'en défendre. Elle se borna donc à le supplier de lui dire en peu de mots ce dont il s'agissait, parce qu'elle ne voulait rien perdre du charmant paysage qu'on allait traverser. « Ah ! S'écria le lord amoureusement, peut-on trouver quelque chose de beau quand on vous a vu ? Vous êtes l'objet le plus charmant que je connaisse, et vous voyez l'homme le plus amoureux. » Surprise au-delà de toute expression, elle le fixa quelque temps en silence. Mais ayant lu dans ses regards qu'il parlait sérieusement, elle serait sortie de la chambre avec précipitation si le lord ne l'en eût empêchée. « Charmante, Miss Tyrol, s'écria-t-il, consentez à mon bonheur et je cours à l'instant instruire vos amis de ma proposition. » Cette déclaration lui parut aussi peu délicate que le lord était peu séduisant. Elle ne put pas toutefois se défendre de lui savoir gré de l'intention, et dès qu'elle fut un peu revenue de sa surprise, elle le remercia poliment de l'honneur qu'il lui destinait, en le priant toutefois de n'en point parler à ses amis, parce qu'il lui serait impossible d'y donner son consentement. Le lord, considérant cette réponse comme l'effet naturel de la modestie, commençait à lui débiter des protestations passionnées de son ardeur et de son respect, lorsque l'apparition d'Edgar arrêta l'effusion de sa tendresse. Edgar avait cru ce moment favorable pour solliciter la conversation qu'il désirait. Mais aussitôt qu'il eut entendu le lord faire à Camilla l'offre pompeuse de sa main et de sa fortune, il disparut avec précipitation. Camilla fut enchantée de cet incident. « Moment heureux !» se disait-elle. « Il en a sans doute assez entendu pour être convaincu de mon désintéressement. » Il saura que c'est lui que j'aime et non sa fortune. Et s'il persiste encore à me donner la préférence, je pourrai l'accepter avec plus de satisfaction que jamais, car il saura que mon cœur est sincèrement, uniquement, inviolablement à lui. » Animée par cette idée délicieuse, elle échappe au lord et monte sur le pont avec l'air rayonnant du bonheur et du plaisir. Son agitation était si gaie, si vive, qu'à peine savait-elle ce qu'elle faisait ou disait. Elle ne pouvait plus regarder sans sourire. Elle approuvait tout ce qu'on proposait. Sa voix était toujours prête à fredonner une chanson et ses pieds dansaient machinalement. Edgar était confondu de ce qu'il voyait. « Est-il bien vrai, se disait-il, que ce soit Camilla ? A-t-elle flatté ce vieillard pour le captiver ? L'a-t-elle captivé pour tirer vanité de sa conquête ? Qu'est devenue sa délicatesse ? Qu'est devenue sa séduisante ingénuité ? Quelle métamorphose étrange et déplorable !» Camilla, loin de soupçonner une pareille interprétation, crut devoir cesser également de converser avec le jeune Westwin et le Lord Valers. Elle s'adressait indifféremment à tous les autres et parlait rarement deux fois du même objet. Un instant de réflexion aurait fait sentir à Camilla que, dans cette circonstance, l'air calme pouvait seul annoncer la pureté de ses intentions. Mais dans le cœur de la jeunesse, la réflexion est rarement la compagne du bonheur. Elle vient souvent à la suite du malheur, mais dès qu'il disparaît, elle s'envole. Tandis qu'elle manifestait aux yeux de tous une lutte d'ivresse fondée sur l'espoir de convaincre Edgar de la sincérité de son attachement, elle se donnait vis-à-vis de lui toute l'apparence de la coquette la plus vaine et la plus décidée. Ses sentiments exaltés donnaient à ses yeux un éclat séduisant, prêtaient des charmes irrésistibles à son sourire, une expression touchante au son de sa voix, à toute sa personne des grâces inexprimables. Tant de moyens de captiver attirèrent bientôt autour de Camilla tous les élégants de la société. Le jeune Lord Perville, qui donnait la fête, fut entraîné par le talisman de Camilla dans le cercle magique. Et l'incomparable beauté d'Indiana et la douce influence de Mistress Burlington cédèrent à la supériorité de Camilla. Edgar ne partageait point l'admiration générale. Camilla lui paraissait plus belle, mais moins intéressante. Hélas, se disait-il, avec cette avidité pour le plaisir, quel est l'homme qui pourrait la rendre heureuse ? Comment pourrait-elle goûter la paisible sérénité de la vie domestique ? Le groupe des admirateurs augmentait à chaque instant. « Oh !» se disait Edgar douloureusement, « si son digne père était témoin de cette scène, comme il en serait révolté !» Et si sa respectable mère voyait l'étrange métamorphose de sa fille chérie, comme elle en rougirait. Trop agité de ses cruelles réflexions pour pouvoir considérer plus longtemps ce spectacle, il attendit tristement à l'autre extrémité du yacht, l'approche du rivage, avec la ferme résolution de ne plus différer son voyage sur le continent. À l'endroit du départ, il s'approcha du groupe. Ses regards percèrent jusqu'à Camilla qui l'aperçut. Il continua de s'approcher, mais avec un air de froideur dont elle ne pouvait pas s'expliquer le motif. Craignant d'être prévenu par quelqu'un d'autre, il lui présenta sa main, sans attendre qu'en se levant, Lady Perville lui donnait le signal de la retraite. Elle la reçut avec un peu de surprise, mais sans alarme, ne voyant rien dans la promptitude de ce mouvement que de favorables à ses plus chères espérances. Tandis qu'elle se livrait à cette douce illusion, elle s'aperçut qu'Edgar chancelait et changeait de couleur à chaque instant. Elle continua cependant de converser avec le cercle dont elle était environnée. Edgar observait un silence profond. Content de s'être assuré sa main pour la sortie, il attendit pour lui parler une meilleure occasion. Il sortit du yacht avec elle et la conduisit jusqu'au rivage sans lui dire un seul mot. Alors elle voulut quitter sa main pour suivre Mistress Burlington. Mais Edgar, la retenant avec vivacité, lui dit d'un ton mal assuré « Celui dont Miss Tyrold a prononcé la sentence, peut-il encore espérer d'elle un entretien de 3 minutes ?» Ces paroles et l'air dont elles furent prononcées glacèrent Camilla. À son tour, elle garda le silence et côtoyait le rivage avec Edgar, tandis que Mistress Burlington, suivie d'une troupe d'élégants, s'acheminait vers sa voiture, où leur jargon flatteur lui fit attendre l'arrivée de Camilla sans impatience. « Ne craignez point, lui dit Edgar lorsque la foule se fut écoulée, ne craignez point de m'écouter un instant. J'oserai hasarder encore quelques conseils dictés uniquement par le sentiment d'une affection pure, sincère et totalement désintéressée. » Camilla, violemment émue, pâlit, mais Edgar ne la regardait pas. Elle s'efforça de le remercier et de cacher son agitation sous une apparence calme et tranquille. L'alliance projetée entre votre famille et celle des Melmont m'impose le silence sur mes opinions, ou plutôt sur mes craintes relatives à Mistress Burlington. S'il arrivait que le souvenir de mes observations pût vous être utile, je m'en féliciterais, mais je désire sincèrement que vous n'en ayez jamais l'occasion. Je ne vous parlerai ni de cette femme sans éducation qui cause une surprise générale en proclamant partout sa liaison avec vous et votre ami, ni même du nouveau genre de vie de Mistress Burlington. Je sais que vous en êtes simple spectatrice et je n'effraierai point vos amis par un danger auquel, sous peu de jours, vous cesserez d'être exposée en retournant dans la maison de vos respectables parents. Je n'ai donc que quelques mots à vous dire et cela seront... Il voulait dire les derniers. Mais la voix lui manqua. « Quoiqu'elle en eût été frappée comme d'un coup de foudre, elle put cependant achever mentalement ce qu'il n'avait pas eu la force de prononcer. « C'est donc en peu de mots, reprit-il d'une voix entrecoupée, que je dois terminer cette conversation définitive. » On ne peut être surpris des hommages qu'on vous présente, il est également naturel que vous les receviez sans déplaisir. Je sais à peine ce que je voudrais vous recommander. Il est cependant possible que vous deviniez ce qui se passe dans mon âme, sans que je vous le dise, et que vous aperceviez le combat de la sincère amitié que le respect veut réduire au silence. Je crois n'avoir pas besoin de vous dire que le malheur de vous avoir offensé serait le seul qui pût aggraver mes douloureux regrets de cette séparation déchirante. » Camilla se tourna de côté, mais non pas pour cacher des larmes. Le dépit lui rendit le courage. Elle fut choquée d'entendre Edgar lui proposer une séparation sans savoir si elle persistait à la désirer. Il ajouta tristement « J'abuse de votre patience, mais n'est-il pas naturel, hélas, de prolonger ? Adieu, jusqu'à mon dernier soupir, votre bonheur sera mon vœu le plus ardent. » C'est à vous que je laisse le soin d'expliquer mon départ et ma conduite à votre respectable père, que je vous supplie d'assurer de mon éternelle reconnaissance. Ignorant quelles sont vos intentions à cet égard, je partirai sans le voir. J'espère qu'à mon retour vous aurez oublié. Pour moi, Camilla, croyez. » Il s'arrêta, le cœur plein de tout ce qu'il ne prononçait pas. Puis, tâchant de se calmer, il poursuivit. Vous qui savez ce que je quitte et combien j'estimais ce que je perds au moment où je me croyais sûr de le posséder toujours, vous croirez facilement que mon voyage n'a pas le plaisir pour objet. Mais si le bonheur est un lot rare dans ce monde, quel droit avais-je de prétendre au privilège du petit nombre? Cette épreuve est cruelle, je tâcherai de la supporter sans murmure. Je vous quitte en faisant des vœux pour votre bonheur auquel je sacrifierai ma vie. Si vous avez jugé que nos caractères ne pouvaient point sympathiser, si le mien vous a paru trop sévère, votre précaution m'évite un tourment plus cruel que celui qu'elle me cause. Car comment aurais-je pu supporter l'existence si, Camille en m'appartenant, je l'avais vue malheureuse ? Ici, ses efforts furent vains et la voix lui manqua. Le ressentiment de Camille disparut. Elle tournait vers lui, ses yeux remplis de larmes, lorsqu'elle vit Melmont, suivi de quelques autres, qui venaient la chercher de la part de Mistress Burlington. Edgar les aperçut, et terminant en deux mots ce qui lui restait à dire, il baisa sans savoir ce qu'il faisait le pan de sa robe, en lui réitérant ses vœux pour son bonheur. Il céda sa main à Melmont et s'éloigna lentement, en regardant toujours Camilla. Baignée de larmes qu'elle ne pouvait retenir, elle marcha les yeux baissés et se soutenant à peine, de sorte qu'elle n'aurait pas eu la force de monter dans la voiture sans le secours de Melmont.